Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Duval, Steve, Cynthia et Fatih. La team Afro et leurs invités vous ouvrent les portes du week-end sur Mon Paris FM.
Mon Afro Paris, c'est maintenant, maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mon Afro Paris, votre rendez-vous du vendredi soir sur Mon Paris FM. Ce soir, préparez-vous à vivre une émission solaire. À m'écouter, comme d'habitude, comme tous les soirs, comme tous les vendredis soirs, j'allais dire, notre crew au top, au complet, pas du tout au complet, moyennement au complet, voilà, avec nous. Et j'ai envie de saluer tous les potes tout à l'heure. Cynthia, salut, ça va, la forme?
Oui, ça va et toi?
Cynthia, notre éclaireuse d'agenda et de talent, pète la forme ce soir.
Oui.
Et Steve, oui. L'infatigable dénicheur de pépites musicales. Salut, ça va?
Oui, bonsoir messieurs, dames.
La
et vous
forme.
Et vous, tout
encore
va bien, j'espère.
Encore un autre voyage dans notre univers, ou un univers qu'on connaît, qui sait?
Un univers, effectivement, que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, doivent connaître.
Ouais.
Et toi aussi, tu vas voir.
C'est sûr, on verra bien. On va découvrir tout à l'heure. Et à nos côtés, hein, aux côtés de la team, une voix puissante, venue des Antilles, entre trap caribéenne et poésie urbaine. Elle a fait trembler la boule noire à Paris et brille avec son album Ferry. C'est Rachel Allison. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va bien, merci.
Oh. J'ai envie de te poser une petite question tout de suite. Hein.
Allez.
Ta chanson, Si seulement, qui me fait penser à une chanson d'une autre grande voix de la musique,
oui,
caribéenne. C'est une vibe très particulière entre Amapiano et Bouillon. Si j'ai bien écouté.
Warm-up.
Warm-up.
Ouais.
Voilà.
J'expliquerai après. Du coup.
Est-ce que ton envie, est-ce que c'est un rythme qui essaie de se rapprocher un peu de, justement, d'Amapiano, des cultures et des sonorités africaines?
C'est vrai que c'est un mélange un peu des cultures, effectivement, des différentes influences de la musique afro et j'ai envie de dire afro-caribéenne aussi. Et voilà. Et l'idée, c'est de faire voyager les gens qui écoutent. Hein.
Parfait. Et on va voyager avec toi au cours de cette émission jusqu'à 20h30. Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Et puis. À mes côtés aussi, on a un sportif aguerri, avéré. Le mec, il a apparu tout de suite dans le studio. La seule chose qu'on a vue, c'est ses muscles. Hein. Aristote, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans mon enfant Paris.
Je vais y arriver. Il t'a fait bégayer.
Oui, ah,
il t'a fait bégayer.
Ça va?
Ça va très bien.
Comment
Toujours.
Tu te définis, toi?
Aristote, qui tu dis ça?
Quand on t'entend parler, on dira, mais le mec, tout ce qu'il fait, c'est se bagarrer. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur les sportifs qui font des sports de combat? Est-ce que c'est parce que t'aimais te bagarrer que t'es allé faire ça?
Bah en fait, on va dire, quand j'étais petit, j'aimais Bruce Lee,
wow,
Jackie Chan.
Hey, j'attendais de toi que tu nous dises ça ce soir, parce que moi, j'ai envie de parler de Bruce Lee. Bah ouais, Bruce Lee, bien sûr, hey, évidemment.
Tu sais, le gars à côté de toi ne va jamais dans l'histoire sortir tous les ancêtres qui ont fait des choses.
Aristote, je peux le dire ce soir, Bruce Lee, moi, c'est ma première idole. Voilà, j'étais petit, je regardais Bruce Lee avec son ensemble jaune, là, dans le jeu de la mort, noir et tout. Je voulais l'ensemble, je voulais que mes parents me l'achètent, mais bon, je ne l'ai jamais eu, bien sûr. Hein. Mais voilà, je me prenais pour Bruce Lee. Ouais, ouais. Donc je comprends que.
Voilà, c'est ça qui m'a fait mettre dans ce sport-là.
De toute façon, tu vas nous raconter toute ton histoire tout à l'heure. On va essayer de te découvrir davantage. Chers auditeurs, le plateau, il est planté. Malheureusement, notre Fatih, elle n'est pas avec nous ce soir. On a une grosse pensée pour elle. Elle va bien, rassurez-vous, il n'est pas malade. Voilà, je pense que. Elle a fait un hold-up le vendredi passé. Elle avait décidé de prendre mon fauteuil. Et je pense que c'est dur aujourd'hui de revenir.
Elle l'a bien occupé
entre
nous.
Elle n'ose pas m'affronter. C'est pour ça. Alors, avant de retrouver nos invités, de parler de leur carrière et de ce pourquoi ils sont là dans cette émission, faisant un petit détour par des classiques. Voilà. Et pas n'importe lequel, hein. Une figure mythique de la musique gabonaise et panafricaine disparue depuis 2010. Il nous laisse un héritage immense avec ses titres au parfum de nostalgie entre rumba africaine, zouk et soul. Je pense que vous êtes en train de cogiter. Voilà, rassurez-vous. Son plus grand succès, Bané, sorti en 1990, un hit intemporel devenu culte dans toute l'Afrique francophone, les Caraïbes et même auprès des diasporas d'Europe. Ce titre, c'est la douceur, la danse lente, la voix chaude, l'Afrique, des balles, des souvenirs, des amours d'été. On l'écoute tout de suite.
Wow,
Oliver Ngoma, Bané. À tout de suite.
Thank you. Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Semaine, place à notre rubrique découverte. Aujourd'hui, on se projette dans l'Afrique de l'Ouest avec un festival, je crois. Enfin, pas un festival vraiment, mais quelque chose qui me fait penser à moi. À un festival, je te dirai pourquoi.
Ok, tu ça verras marche. Bien.
Let's go avec la découverte de Cynthia.
Modèle, impactant, inspirant et innovant, c'est dans Découverte.
Lumière sur les talons blancs du Burkina Faso, je vais vous parler de la princesse du peuple Mossi, la princesse Yenenga. Comme il l'est précisé dans plusieurs écrits, l'histoire de Yenenga a été majoritairement partagée oralement. Plusieurs versions sont comptées, mais la base reste inchangée. Yenenga est issue d'une famille royale, fille du roi Naba Nedega, qui régnait sur le royaume d'Agomba. Elle est passionnée par les animaux, notamment les chevaux. Elle pousse très tôt son père à lui enseigner l'art et la maîtrise de monter un cheval, malgré le fait que c'était un domaine réservé uniquement aux hommes. Ce qui fut facile, car c'était la protégée de son père, un peu comme moi. C'est pour ça que je l'aime bien, cette petite. Et au fil des temps, elle devient une très bonne cavalière, mais surtout la première guerrière Mossi. Elle était redoutable. Grâce à elle, la cavalerie de son père devient une des plus grandes puissantes et une des plus puissantes des alentours, et elle se voit en tête de l'armée à chaque bataille. À partir d'ici, l'histoire se divise un peu. Certains disent qu'elle aurait quitté le royaume de son père car elle souhaitait changer de vie. Elle voulait une vie de famille et être mère, mais son père refusa. Une autre version dit qu'elle se serait perdue dans la forêt après une bataille. Et d'autres disent que son père voulait la marier et qu'elle refusait ce destin. L'histoire se rejoint sur une chose, qui est le fait qu'elle ait rencontré un jeune chasseur d'éléphants, issu du sang royal également, et tombé perdument amoureuse. Tous deux donnent naissance à un garçon qu'ils nommeront Ouédraogo, ce qui signifie « cheval ». En guise de réconciliation, elle confie son fils unique à son père, le roi Naba Nedega, et celui-ci devient à son tour un cavalier et également le père fondateur du peuple Mossi. Vous pouvez retrouver plusieurs ouvrages qui parlent de cette épopée, notamment celle d'Aurélie Quetta, qui s'intitule « L'épopée de Yenenga, un conte d'une princesse d'Afrique ».
Magnifique. Alors, Steve, tu la connaissais cette histoire ?
Non, et je me suis concentré vraiment pour pouvoir répondre et dire quelque chose. Mais non, je la connaissais pas. En tout cas, voilà, c'est l'histoire de la vie. À un moment donné, on s'émancipe, on quitte son cocon et on fait son nid, quoi. Donc, mais belle histoire. Bravo, Cynthia.
Ça va au-delà et j'ai envie de te demander, toi, Aristote, je sais que tu es très rapproché, très porté par tout ce qui est culture afro et tout. Ça te porte très, très fort. Est-ce que tu savais que le peuple le burkinabé, justement, parce qu'on parle du Burkina, mine de rien, c'est du peuple.
Oui.
Et est-ce que tu savais que l'histoire de ce peuple était liée à une personne, à une jeune fille en plus?
Non.
Le peuple Mossi au Burkina.
Franchement, non, pas du tout.
Et toi, Rachel?
Non.
C'est des choses qu'on ne sait pas. Mais moi, personnellement...
Mais je pense que si on passe au Burkina Faso... On le saura.
On le sait.
Forcément.
Absolument.
Parce qu'il y a beaucoup de représentations d'elle, il y a beaucoup de statues, de foot, ouais, les équipes de foot du Burkina Faso portent son nom sur leur drapeau, il y a son emblème, il y a le cheval blanc, etc. Donc,
le peuple burkinabé reste un peuple justement qui est porté sur son histoire, sa culture et tout, et donc ils mettent en valeur tout ce qui les caractérise justement.
Oui.
Moi je te remercie Cynthia pour cette chronique qui fait du bien à l'âme
avec
et à la mémoire justement, l'histoire de la princesse
Yenenga,
c'est une princesse hein, au-delà de tout, c'est une histoire qui... C'est celle d'une femme libre, stratège, guerrière qui a refusé des carcans pour suivre sa voie. Une figure fondatrice, mère du peuple Mossi, mais aussi matrice d'un imaginaire où la femme ne se contente pas de subir l'histoire. Elle l'a fait.
Exactement.
Ce que tu nous rappelles là ce soir, c'est qu'en Afrique, depuis toujours, les femmes sont au cœur des dynamiques de transformation. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent aujourd'hui. Ils en parlent. C'est un peu comme si c'est que le patriarcat. Mais en fait, les femmes ont été aux commandes. Et elles ont porté des combats. Et c'est important. Et cette légende-là, elle résonne puissamment aujourd'hui, alors que le continent bouge, hein, se cherche, s'affirme. Que ce soit dans les luttes sociales au Sénégal, dans les résiliences des femmes maliennes face aux crises ou dans les voix puissantes qui émergent dans les musiques. Les arts, les politiques, Yenenga n'est pas qu'une héroïne du passé. Hein. Ça, il est important de le dire. Elle est une archétype de l'avenir, celui d'une Afrique debout, digne, conduite par des femmes qui n'attendent plus qu'on leur ouvre les voies. Alors merci hein, pour ce rappel, parce qu'on en a besoin, on en a tous besoin.
Mais d'ailleurs, au Burkina Faso, dans les écoles, son histoire est étudiée.
Ah oui.
Les enfants connaissent l'histoire de leur reine, de leur princesse, dès le premier âge.
Mais il n'y a même pas que ça. Tout à l'heure, je te disais que ça me fait penser à un festival. C'est pour te dire, en fait, par exemple, le plus grand festival du cinéma africain, francophone, se tient au Burkina. Voilà, c'est justement le FESPACO. Mmh. Et le Graal, le plus grand des prix de ce festival-là, c'est l'étalon du Yenanga. Justement pour valoriser et pour dire...
Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une nouvelle ville. Je ne sais pas depuis quand. Je sais pas si... Oui, non, il y a une nouvelle ville. Le village, un nouveau village, le village Yenanga qui va...
C'est bien, ça continue. Il faut faire revivre justement cette histoire, même si... Et c'est bien, hein, en plus de sa descendance existe encore. Hein. Il y a le Moro Naba.
Mais les noms de famille...
Le Moro Naba, c'est comme une sorte de prêtre auprès de qui tout le monde part chercher une bénédiction quand tu pars au Burkina. Tout le monde va vers lui et tout. C'est vraiment le tout dernier de toute cette descendance-là. Lui aussi, il fait de la famille et tout. Mais c'est vraiment un prêtre qui vit chez lui. Il a une sorte de monastère chez lui où tout le monde part prendre des bénédictions, de l'onction. Et c'est fort, hein, c'est puissant. Merci beaucoup, Cynthia.
Avec plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rechercher l'histoire de Yenanga. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique.
C'est
mais surtout de nos reines, de nos princesses, de savoir d'où on vient.
C'est et très bien.
Ça me plaît de pouvoir le partager avec vous.
Je suis d'accord avec toi. Alors, Rachel.
Oui.
Dans ta création musicale, est-ce que tu te considères comme une artiste qui s'inspire de ces figures-là, de ces femmes qui ont marqué le monde et surtout de la culture noire, la culture afro, pour composer, pour créer des musiques?
Bah écoute, on va dire que la musique pour moi était une forme de thérapie dans un premier temps. Je suis quelqu'un qui va être assez pudique avec mes émotions et c'est vrai qu'à travers la musique, je vais avoir plus de facilité à m'exprimer. Donc je vais égoïstement me servir de la musique pour tu vois, relâcher.
Pour relâcher.
et c'est vrai qu'il était quand même important pour moi en tant que femme de me réapproprier ma sensualité, ma vie, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde, et je vais parler pour ceux que je connais, hein, dans le monde de la musique, voilà, on va penser qu'en tant que femme, c'est peut-être plus facile parce que t'es une femme, tu plais, t'es charmante, et du coup, tu peux avoir des accès un peu plus, voilà, alors que bah, pas du tout, au final, en tant que femme, il faut être hyper bien entourée parce que justement... On se fait marcher dessus, on se fait approcher pas pour les bonnes raisons et on reste quand même dans un monde d'hommes, entre guillemets. Oui. Je saurais pas vous l'expliquer, mais c'est un peu mon ressenti.
Les choses sont pas si faciles que les gens le croiraient.
Oui, exactement.
C'est pas la première artiste...
Mais tout le monde le dit, excusez-moi. Oui. Toutes les femmes, toutes les artistes femmes, les chanteuses...
Dans beaucoup de domaines, oui.
Ont le même discours, malheureusement. Que le tien.
Malheureusement.
Mais c'est important de le rappeler.
C'est important, oui. C'est important. Voilà. Parce
que Rachel, le truc, c'est que beaucoup d'auditeurs t'écoutent, mais on a envie de te découvrir davantage. Et moi, j'ai fait un petit papier sur toi. J'aimerais te le lire. Tu vas me dire ce que t'en penses. Oh. Avec les lettres de ton nom.
Avec les lettres de mon nom. Ouais. Très bien.
J'ai essayé. Voilà. Racine ancrée dans le sol de Basse-Terre, une île en offrande au parfum de lumière. A, avec l'âme d'une enfant bercée par l'évangile. Elle chante très tôt dans l'ombre des asiles. Chanteuse au cœur vaste, entre trappe et balade, elle tisse en silence ses propres escapades. Héritière d'un peuple de feu et d'un son, sa voix épouse l'onde. Fusionne les saisons. Entre Paris et retour aux racines, elle choisit la scène plutôt que l'usine. La gestion comme base met le rêve en flambeau. Elle devient la rêveuse, homo sans drapeau. La musique devient lutte, langage et caresse. Son style caribéen, rebelle. Il progresse, elle crée son chemin, loin des cases tracées. Et brise les murs que d'autres ont dressés. Alison la guerrière, au texte en miroir, dévoile ses blessures sans jamais s'émouvoir. L'amour, la colère, la femme oubliée, tout devient refrain. Tout peut résonner. Les EP comme des chapitres intimes, esquisses d'une vie, d'un combat légitime, indépendante et fière, elle bâtit ses projets sans masque, sans flamme volée, sans regret. Ses mots sont des armes, ses sons des prières,
dans chaque mélodie une vérité fière, ombre et lumière, douceur et puissance. Elle danse entre les styles avec élégance, née pour vibrer, pour faire vibrer le monde. Rachel Allison, l'art au cœur, la voix profonde.
Waouh, wow, mais c'est une déclaration d'amour, ça.
Tu te retrouves dedans?
Oui, complètement.
J'essaie de trouver des mots qui parlent un peu de ton parcours, de ton histoire et tout.
Alors, juste une petite correction. Donc, effectivement, j'ai grandi à Basse-Terre, mais je viens de la Guadeloupe. Et Basse-Terre est une ville de la Guadeloupe.
De là-bas.
Voilà.
Exactement. Alors, du coup, ton histoire commence comment avec la musique, toi?
Depuis toute petite, je ne saurais pas déterminer quand exactement. Je peux parler de ma première expérience avec un micro. On a de la famille dominicaise par alliance. Et du coup, étant petite, on faisait des allers-retours là-bas. Donc, c'est une île anglophone.
Dominicaise, hein, tu as dit ça?
Dominique. Ouais. D'accord, voilà, d'accord. Parce qu'il y a la République dominicaine. Yes. On parle de dominicain, dominicaine. Okay. Et la Dominique, dominicaine, dominicaise.
D'accord.
Donc, c'est une île entre la Guadeloupe et la Martinique. Et donc, pour la première fois, j'ai entendu ma voix dans un micro parce qu'on allait du coup à l'église là-bas et à la fin, on m'a demandé si je voulais chanter dans le micro. Et c'est vraiment, ça a été ma première expérience où j'ai eu un retour de ma propre voix et ça m'a impressionné.
Un événement marquant dont tu te souviens, ouais.
Ouais, vraiment, c'est le premier dont
qui est fondateur.
Je me rappelle. Ouais.
Et ça t'a donné envie de continuer?
Ça, et puis un tas d'autres choses. Hein. C'est vrai que... Alors, je ne suis pas issue d'une famille d'artistes, mais mon frère et ma sœur étaient très branchés musique. Et avec ma sœur, on chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, un autre souvenir, hein, c'est Sister Act 2.
Ah, Whoopi.
Ouais, exactement.
Lorraine Hill,
exactement.
Là où on fait pousser les voix.
Exact. Ouais, et du coup, on l'a regardé plusieurs fois. Et à chaque fois, on chantait. Et je me rappelle d'un jour où ma sœur m'a regardé, m'a dit, mais... En fait, tu sais chanter. En fait, tu chantes.
En fait, c'est juste incroyable. Excuse-moi de te couper, mais le cinéma a le pouvoir que ça. Parce que là, tu parles de cinéma. On a notre sportif ici qui nous parle aussi de cinéma. Ouais. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui nous pousse à faire plein de choses.
Le cinéma et la musique sont souvent liés, en vrai.
Oui, ben après, ça reste du domaine de l'art. Donc
et puis, tout à fait. Sister Act, quand tu nous parles de ce film, on est carrément dans le lien entre le cinéma et la musique.
Ouais, exact.
Et justement, ça t'inspire et tu te dis, tiens, j'ai entendu ma voix. En général, les gens, ils n'aiment pas entendre leur voix. Ils sont dérangés. Mais toi, tu entends ta voix et tu te dis, tiens, elle est belle, ma voix.
Ouais, bah, c'est ma sœur qui m'a dit, tiens, elle est belle, ta voix.
Et du coup, Rachel, excuse-moi, mais tu pars sur du gospel, donc c'est ce que tu commences à faire au niveau en termes de chant?
Non, je dirais pas ça.
Ok.
Non, je...
Donc ça t'influence, mais pas non plus au point de faire du gospel, quoi.
Non, j'en ai pas. Alors, j'aurais voulu en faire parce que
c'est une bonne école.
Oui, voilà. J'ai beaucoup d'admiration. Et puis, c'est vrai qu'en étant aux Antilles, j'aime bien dire que c'est un peu une plaque tournante musicale, au final.
Bien sûr.
Parce qu'on a énormément d'influence. Et la première influence étant celle des États-Unis. Donc, voir des artistes comme Whitney Houston, Mariah Carey, etc., j'ai toujours eu envie de.
Mais d'ailleurs, excuse-moi, la bague, c'est un hommage à Erykah Badu, ça ou pas?
C'est ma mère qui me l'a offerte. Ma mère a fait un voyage au Bénin. Pour la première fois, parce que c'est vrai que nous, Antillais, on est beaucoup descendants de pays d'Afrique, mais pas que. Et à un moment donné, on passe d'un sujet à l'autre, hein, mais je te donne l'explication.
Oui, vas-y.
Et je pense que c'est important, à un moment donné, de faire cette reconnexion, tu vois. Et ma mère, elle a eu l'occasion de le faire. Et ça a littéralement changé sa vie, ça a changé sa spiritualité. Ça, à plus de 60 ans, elle a eu une autre vision.
J'ai envie qu'on écoute cette chanson si seulement.
Elle est très belle.
Je l'ai dit, qui me fait penser à une autre grande voix de la musique antillaise.
Ouais.
Mais toi, justement, tu me disais que c'était un rythme, tu l'avais appelé comment?
Warm-up.
Tu nous en parles?
Il faut que j'explique. Voilà. Le warm-up, en fait, dans les îles anglophones, c'est un peu l'échauffement des musiciens. Au moment d'être en live et tout, ils vont se chauffer, ils vont chauffer le public. Ça va commencer doucement et après, ça va partir dans un rythme un peu plus accéléré,
tempo,
en soca,
départ, ouais.
En bouillon, etc. Et donc, à un moment donné, ça a été isolé. Et ça s'est transformé en style depuis, c'est assez récent, mine de rien. Et depuis, depuis quelques années, un an ou deux, on entend beaucoup plus parler de warm-up. Alors que le warm-up, c'est vraiment du live, c'est l'échauffement des musiciens, c'est le fait de chauffer la foule, etc.
C'est bien rythmé, hein, moi j'aime bien, j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, waouh, j'ai pris une claque.
Non, moi j'ai une question à poser en termes de BPM, en termes de vitesse, de beat, on est à combien? Oula, parce que tu dis que c'est bien rythmé. Quoi 120, c'est quoi le...
Qu'est-ce que tu lui veux, monsieur spécialiste de musique
dans ces eaux-là? Non, non, mais ça m'intéresse.
Mais je dirais qu'on est au-dessus de 100, effectivement. Ah, d'accord, entre, okay, peut-être okay, entre 110 et 120. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord. Je sais que le bouillon, c'est au moins 120 et que le warm-up est en dessous.
Okay. C'est comme si tu es en train de demander à notre ami Aristote, voilà, qui est dans le sport de combat. C'est quoi la hauteur du ring et tout?
J'avoue.
Qu'est-ce que ça lui fait?
Non, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se posent la question et qui se demandent.
Lui,
parce qu'on
fiche.
Parle de ce. De,
lui, voilà. il grimpe sur le rythme, il fait son, le ring, il fait son combat, n'est-ce pas, Aristote?
Exactement.
Écoute, si seulement, on va l'écouter
attends,
cette chanson.
Attends,
Léo. Ah, voilà.
Alors, Duval n'a pas voulu le dire tout à l'heure, mais je vais le dire. Tu voulais faire un hommage à Edith Lefel dans cette chanson, c'est bien ça?
Oui, alors effectivement, donc Edith Lefel, qui est une grande figure de la musique antillaise, caribéenne, qui est décédée malheureusement, qui nous a quittés depuis plusieurs années maintenant. Et je crois que c'est son dernier titre.
Oui.
C'est son dernier titre avant de partir. Et... C'est celui-là? Oui, c'est celui-là.
Oui, c'était ça.
C'est celui-là,
c'est
oui.
Son dernier album s'appelle C'est seulement, en tout cas.
D'accord. Et du coup, étant petite, hein, j'étais inspirée par des artistes américains, etc. Autant des artistes de chez nous comme Edith Lefel, Gilles Fleurot qui est aussi parti, Tania Saint-Val ou encore Jean-Michel Rotin qui pour moi était le Michael Jackson des Antilles.
Ouais. Je suis d'accord.
Et ben ça a été important aussi pour moi de rendre hommage tout simplement. C'était quand même c'était assez délicat. Hein,
mais le message est différent.
Le message est différent et c'est vrai que
mais c'est
rien,
ce que je trouve puissant.
Ouais.
Quand même que tu aies quand même réussi à rendre hommage à Edith Lefel en reprenant sa chanson. Moi, je sais en mode groupie, hein, c'est ça.
Ouais.
Il n'y a pas de question, il n'y a que des fleurs. Je trouve ça puissant que tu aies réussi à reprendre une aussi grande dame.
Merci beaucoup.
Avec respect, avec, sans déformer, sans. En fait, tu as ajouté ta touche, sans changer son travail.
Oui,
et,
oui. Ouais.
Sans changer.
Sans faire exactement comme elle aussi.
Sans faire exactement comme elle, mais. On sent Rachel dessus et c'est tout dans le respect et c'est hyper
Merci
beau.
Beaucoup.
Et cette chanson-là, on peut pas se dire bon, quelqu'un a refait la chanson, mais elle est pas. Là, on se dit bon, on a envie de l'écouter, la réécouter. Et il y a beaucoup de chanteurs qui refont, je sais plus comment ça s'appelle. C'était pas une question. Je suis en train de lui lancer des fleurs. Laisse-moi lancer des fleurs.
Non, mais il y a une histoire derrière ça. Et puis bon. Donc, tant qu'on y est, autant raconter un peu ce qui se passe autour de ce titre-là. Il faut savoir qu'elle a une histoire, enfin surtout la fin de sa vie était assez triste.
C'est ça, ouais.
Avec un gros chagrin d'amour. Mmh. Y a beaucoup de rumeurs, et en même temps c'est une histoire un peu taboue parce que ça implique pas mal de monde connu dans
le
monde de la
musique.
Effet. Et puis bon, beaucoup disent que c'est un peu la peine de cœur qui a fait que... voilà. Bon, c'est un peu mystérieux tout ce qui se passe autour et bon, je veux pas m'étaler là-dessus parce que c'est une histoire qui est encore très douloureuse pour la famille. Mm-hmm. Il faut savoir qu'à l'origine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a samplé donc une partie du morceau pour faire une base warm-up et que les autorisations ont été demandées, bien sûr, parce qu'on fait pas ça comme ça. Hein. Mm-hmm. Tu fais pas de l'argent sur des titres qui existent sans demander l'autorisation. Au final, la famille, du coup, n'a pas été mise au courant des autorisations que nous avons demandées. Et donc, on a été contacté très rapidement pour nous demander de retirer. La voix d'Edith Lefel sur ce titre-là, parce que c'est douloureux. Mmh. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, il a tourné en radio, étant donné qu'on avait fait les choses légalement, avec la voix. Et ensuite, très rapidement, il a fallu qu'on retire sa voix. Même si je suis restée sur le titre Si seulement et que je démarre mon titre en disant Si seulement tu savais,
oui.
Eh bien, il nous a été demandé par respect pour
donc,
la famille.
Donc, clairement, il y avait une volonté de rendre hommage en restant un peu dans la ligne d'Edith, sauf que finalement, pour le respect de la famille et de leur douleur, tu as dû t'adapter et faire quelque chose dans ton style à 80%, disons, en restant dans l'idée que tu rends hommage à l'artiste.
Voilà.
C'est tout à ton honneur et c'est une très belle chanson que tu as fait.
Bravo.
C'est un très bel hommage.
Vraiment, bravo.
Justement, on va l'écouter. Aristote, il se dit total, mais arrêtez de parler, je vais écouter.
Moi aussi, c'est bon, là. Mettez.
Si seulement, à tout à l'heure sur les antennes de Montparnasse FM, les chers auditeurs.
Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris. soit d'être. Or l'amour reste fraîche pour moi plaire. Fais effort pour nous défaire la paix. Fais confiance pendant qu'on gâche ex. Non mais où rassurer moi l'ennui. Abriter de chez moi en bas la pluie. Y'a ni problème ou qu'à prendre la fuite. En moins plus l'amour qui m'est pris.
C'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Mon Paris FM.
Et nous sommes de retour sur les antennes de Mon Paris FM dans Mon Afro Paris. C'est l'heure de retrouver mon très cher Steve avec le coup de cœur de ce soir. Let's go.
Steve vous emmène dans son univers musical. Laissez-vous entraîner dans sa playlist. Le coup de cœur de Steve.
Maintenant, chers auditeurs, place à une petite pépite. Elle fait du bien au cœur. Une chanson comme un voyage entre tendresse, souvenir et rythme chaloupé. Aujourd'hui, là, je vous parle de Kélia Paulin. Kélia Paulin, normalement, chers auditeurs, vous la connaissez, elle est passée par chez nous et elle nous avait fait kiffer. Donc voilà, Kélia, c'est une voix montante de la scène française avec son titre doux et solaire, Mami Rio. Alors vous allez me demander, mais qui est Kélia Paulin ? Kélia Paulin, c'était une artiste encore discrète sur les grands plateaux télé, mais qui commence sérieusement à faire parler d'elle dans les cercles de la nouvelle chanson française. Sa musique, c'est un mélange de pop, de soul, de musique du monde, mais c'est surtout un univers plein d'humanité. Et Mami Rio, c'est quoi ? C'est une déclaration d'amour, mais pas une histoire d'amour romantique, non, non, non. Une ode à la transmission, à l'enfance, à ces figures qu'on oublie malheureusement trop souvent, nos grands-mères. Kélia nous y parle de sa Mami Rio, une femme forte, drôle, peut-être un peu fantasque, mais surtout pleine de vie et de souvenirs. Le titre, qu'on entend, mêle des sonorités chaudes, avec une voix pleine d'émotions. On sourit, on s'émeut, on danse aussi un petit peu, ouais ouais on peut, hein, doucement. Et surtout, on pense à nos propres grands-mères, celles qui nous ont bercés, raconté des histoires, préparé des petits plats incroyables ou simplement appris à aimer. Et franchement, dans un monde qui court tout le temps, une chanson comme ça, ça fait du bien, c'est une pause, un petit moment suspendu. Alors, si vous ne connaissez pas encore Kélia Paulin, c'est le moment de tendre l'oreille et surtout, appelez votre mamie après l'écoute. Si vous avez la chance de l'avoir encore auprès de vous, elle mérite bien ça, non ? Messieurs, dames, Kélia Paulin, Mami Rio, alors, enjoy les amis.
Espérer l'embrasser par la vie, son cœur est senti. Quatre mètres chez moi quand on vient la pluie. Gardez-moi en ciel, les acquérivés. Immense, immense, nous.
Thank you. tes corps bien fragiles, où les amis tranquilles, où c'est les rejoignent, je dis tout ça que j'appâtis. Tchao, j'accapresse flétrie, mon soleil bat à l'infini. Mais ni vous ni moi nous permettent de tuer.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur mon Paris FM.
J'ai envie de dire waouh, mais je le dirai pas. Pourquoi? Parce que je connais Kelly Apollin et ce waouh, je l'ai déjà dit tellement de fois chaque fois que j'écoute sa musique, tellement de fois que quand on l'a reçu dans cette émission. Mais quel morceau chargé d'émotion! On sent le respect profond pour les aînés, pour sa figure maternelle, souvent pilier des familles aussi. Hein. Mm-hmm. Hein, musicalement, c'est fin, c'est doux, mais ça tape là où il faut.
C'est tellement bien dit, Brahim. Bien sûr, ma sœur Duval, exactement. J'ai adoré ce morceau et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on lui rende ce petit hommage ce soir.
Oui, justement, je te connais.
Un bisou si tu nous écoutes, Kélia, un bisou.
Je te connais et si tu t'es arrêté dessus, c'est parce que justement cette chanson, elle t'a parlé, elle t'a touché.
Bien sûr, évidemment.
Kélia Apollin, est-ce que tu connaissais Aristote? Est-ce que tu connaissais cette chanteuse?
Non, je la connaissais pas.
Pas du tout?
Non, pas du tout.
T'as entendu les mélodies? Vous qui montez sur le ring, généralement on voit les athlètes comme vous. Avoir des musiques pour vous donner de la force,
pour sortir
sur le ring, vous transcender. Est-ce que toi, ce genre de musique, ça te porte?
Franchement, c'est un peu mou quand même. Moi, il me faut,
pas pour rentrer sur le ring, ça c'est
trop
sûr.
Doux. C'est trop doux. Mais quand on a ça fini serait... le combat, est-ce qu'on a besoin d'écouter ce genre de morceau pour se poser?
Non, moi, il me faut une musique secousse. Justement, j'ai gagné, donc il faut fêter ça. Quoi.
Ouais, peut-être dans le rythme de warm-up.
Exactement.
Ah ouais. Ah. Tu me disais que ça te faisait penser à quelque chose?
Ça m'a fait penser à tout ce qui est musique africaine, quoi.
Okay.
Genre son de l'été, tout simplement.
Et toi, quand tu dois monter sur le ring, tu écoutes quoi? Tu mets quoi?
En fait, ça dépend du mood, ça dépend de mon moment à moi. Ça dépend aussi de la tendance. Mm-hmm. Voilà, donc ça peut être... C'est surtout soukous, en tout cas, de base.
Ok.
Et voilà, il y a...
Alors, attention, je vais vous le dire. Les auditeurs, vous ne verrez pas. En tout cas, vous n'allez pas voir là tout de suite. Peut-être sur les plateformes de Mon Afro Paris, vous allez voir. Parce que Aristote, il vous réserve une petite surprise. Il m'a dit...
m'a regardé en mode,
moi aussi,
tu m'as emmené.
C'est...
Ça, c'est normal, ça.
Pour c'est un très bon danseur.
D'accord.
Ah oui, vous ne pensez pas. Hein,
vous voyez.
Alors, pour les sports de combat, encore une fois, je fais le parallèle avec Bruce Lee. C'est un très, très bon danseur. C'est un danseur
mais
de
lui,
cha-cha.
Il parle encore de Bruce Lee. Hein.
Parce qu'Aristote, il a... Voilà. Et effectivement, Bruce Lee, il faisait de la danse. Et la danse, pour les sports de combat, ça aide en termes de jeu de jambes, ainsi de suite. C'est important, tu confirmes?
Bien sûr, oui. Mm-hmm.
Voilà, c'est tout. Merci.
En plus, c'était très pertinent. Je suis d'accord.
Ah.
Non, je ne suis pas Duval dans son... Tu peux continuer.
Moi, j'ai rien dit. J'ai juste dit, Steve, il est encore dans... Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Rachel.
Oui.
De retour avec toi. Du coup, tu as eu le déclic avec ta voix que tu as entendue. Mmh. Et puis, cette chanson, Si seulement, tu nous as dit tout à l'heure que le but, c'était de rendre hommage à Edith Lefebvre qui t'a marqué quand tu étais enfant, que tu écoutais et tout. Là, aujourd'hui, tu as commencé avec des mixtapes, hein, puis des EP. Et aujourd'hui, tu sors, tu as sorti un album. Hein.
Oui, après, c'était il y a 2023.
Ouais,
déjà,
en 2023, tu as sorti cet album-là.
Ouais.
On peut dire que tu es parti tout doucement, toi. Tu as pris ton temps.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Parce que tu commences pas les EP et tout, tu fais des singles et ensuite tu pars sur l'album.
Pour moi, c'est un parcours classique.
Normal, voilà.
Ouais. Parce que il y a différents types de carrières. Tu vas avoir des artistes qui vont sortir un son et ça va monter très très vite.
Oui.
Et c'est soit, franchement, ça se passe hyper bien et ça reste toujours en haut, mais souvent ça redescend aussi vite que c'est monté.
Tout à fait.
Et je pense qu'il est important. Après, bon, voilà, moi, j'ai beaucoup la tête sur les épaules, tu vois. Je pense que c'est important de passer par certaines étapes pour vraiment réaliser ce que c'est que de tenir une carrière musicale. Et surtout pour être dans la longévité.
Et Rachel, musicalement, tu fais équipe avec qui? T'es entourée de musiciens? Comment ça se passe? Tu composes, tu écris, et puis après tu envoies et on t'envoie les sons. Enfin, comment ça se passe?
Alors, entourée de musiciens, quand je vais faire des scènes en live, évidemment, voilà, je vais faire avec des musiciens. Parfois, ça va être quand j'étais aux Antilles, puisque je me suis installée sur Paris que récemment, hein, depuis le mois d'août 2024.
Bienvenue.
Merci. Et c'est vrai que souvent, en fonction des scènes sur lesquelles je suis appelée, ça va être les organisateurs qui vont faire une formation.
Suivant l'espace que tu as sur scène.
Suivant l'espace que j'ai sur scène, suivant les musiciens disponibles à ce moment-là. Il faut savoir que ça coûte très cher, c'est possible, hein. Mais si je devais avoir mes propres musiciens et les imposer à chaque live, t'imagines le cachet ? Il faut mon cachet,
bien sûr.
Cachet du chef d'orchestre, il faut le cachet
de... C'est bien d'en parler de ça justement, mais oui.
Tu vois ? Et donc c'est quand t'es en, voilà, quand t'es en indé, quand tu vis pas encore réellement de ta musique, c'est difficile d'avoir une formation à soi qui suit partout, tu vois. Maintenant, comment composer ? Bah, aujourd'hui, tu as des beatmakers qui vont faire des propositions, qui vont envoyer un pack d'instru. Parfois, je vais aller en studio avec un beatmaker qui va composer. On va vraiment créer ensemble.
D'accord. Et donc, vous partez de la musique pour après, t'écris après.
Voilà. Et moi, je fonctionne plutôt comme ça. C'est vrai qu'il y a des artistes qui vont écrire, ensuite, ils vont adapter leur texte. Moi, j'ai besoin que la mélodie me touche. Mm-hmm. Après, je vais faire un petit un yaourt.
Et tu as un beatmaker spécifique ou tu arrives à faire avec...
En Guadeloupe, je travaillais souvent avec... Enfin, pas je travaillais, puisque ça arrive encore. YSN. Mm-hmm. Qui fait partie de l'équipe HMC, d'ailleurs un gros big up à HMC, à Petit Bourse, avec eux que ça fait, enfin depuis quelques années on travaille ensemble. Mais c'est vrai que non, je reste ouverte. Il y a beaucoup, en plus chez les jeunes surtout, t'as beaucoup de jeunes qui émergent et qui font des propositions intéressantes, qui s'adaptent à leur temps au final. Et c'est important de changer et puis voilà.
Aristote. Je crois que tu as une question pour Rachel.
Oui, j'ai une question. Tu as déjà fait des featuring avec des artistes africains ?
Non. Attends que je réfléchisse. Non. Alors, d'origine, oui. Maintenant, j'ai eu des... je suis en train justement de voir, d'attendre des propositions, parce que l'idée aussi, en tant qu'antillaise, en tant que caribéenne, il y a cette... volonté de vouloir se développer aussi sur le continent africain. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup. Maintenant, je pars un peu dans l'inconnu, hein, puisque toutes mes influences restent assez caribéennes, donc je suis vraiment très très ouverte aux collaborations en dehors des frontières caribéennes et françaises. Et ce que je tiens à dire aussi particulièrement, c'est qu'en tant qu'antillais, parce que français antillais, on a cette obsession de vouloir absolument plaire à l'Hexagone, à la France, alors que le monde, il est grand. Et on peut tout à fait avoir une grande carrière sans pour autant... Parce que c'est compliqué. Enfin, il y a tellement de sujets, hein, déjà, que...
Mais regarde, Kassav, le succès qu'il a eu en Afrique, alors que...
Ouais.
Ça a débuté là-bas. Hein.
Ça a débuté là-bas et il a fallu convaincre l'extérieur pour avoir du crédit sur le territoire français. Donc,
justement, Cynthia, avant justement que tu poses cette question, puisqu'on est dans cette recherche de mélange de styles, pas forcément une recherche, mais oui, ce besoin de mélange de styles. Toi, qu'est-ce qui te pousse justement à mélanger tous ces styles, Goka, etc. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ?
Bah, le truc, tu vois, c'est que souvent, on veut mettre les artistes dans des catégories. Moi, quand j'ai démarré, ça fait quoi ? Ça fait 12 ans que je fais de la musique. Et ça fait que 3-4 ans que vraiment je suis en rotation, en radio, que les médias jouent le jeu. Mais il était difficile au départ parce qu'on n'arrivait pas à déterminer mon style. Et puis on m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne fais pas du zouk ? Si tu faisais du zouk, ce serait
le
plus
cliché,
simple.
Ouais.
C'est énervant ça.
Voilà, guadeloupéenne, les femmes font du zouk, ben, fais du zouk. Sauf que la musique, il y a tellement,
tellement
d'influences. J'aime la musique dans son entièreté et... J'ai du mal à rester. Voilà quoi.
Alors, j'ai une certaine évolution aussi. Hein, et puis, comme tu l'as dit, le public, il est partout. Il n'est pas qu'en France, il n'est pas qu'aux Antilles, il est partout. Il faut aller à la recherche de ce public pour leur montrer ton talent et les palettes que tu as. Et donc, le fais bien. Oui, Cynthia.
Tu as eu plusieurs collaborations, notamment avec Meryl, Lucity, Matthew White, et j'en passe. C'est quoi, comment se déroulent ces rencontres ? Est-ce que tu as des critères de sélection ? Est-ce que tu as...
Non, mais c'est à la vibe.
C'est au feeling.
Hein. C'est au feeling. Parfois, ce sont les artistes qui sont venus vers moi pour demander des collaborations. D'autres fois, c'est moi qui ai été vers eux. C'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. Et j'ai fait des featuring avec des artistes qui n'étaient pas spécialement connus, tu vois.
Et moi, j'ai toujours été très curieuse parce que je ne suis pas dans le domaine de la musique. Comment ça se passe, l'écriture en featuring avec un artiste ? Est-ce que vous vous mettez tous les deux assez en face de l'autre, vous écrivez ensemble
ou... Alors, idéalement, c'est bien de travailler avec un artiste, d'aller en studio ensemble. De,
ouais.
Tu vois, par exemple, j'ai fait un feat avec Gianna King. En une soirée, on a fait deux titres.
Wow.
On a passé la nuit au studio et on a surtout passé une bonne heure, voire deux bonnes heures à discuter, à échanger sur nos expériences. Et cette connexion-là était importante pour qu'ensuite le travail soit fluide. Après, voilà, je vais plutôt fonctionner comme ça. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont avoir des méthodes différentes. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette connexion-là. Et puis surtout, d'avoir envie de la collaboration. Et parfois, je le fais par stratégie, bien sûr. Tu vois, comme dans tous les domaines. Hein, il y a un artiste qui est en lumière. Si tu fais un feat avec lui, ben forcément, tu vas pouvoir bénéficier de ses auditeurs, de son public, etc. Donc oui, il y a des collaborations qui sont stratégiques. Mais tout d'abord, c'est pour moi, en tout cas, ça reste une question de feeling.
Donc tu gardes de beaux souvenirs de chacune de tes collègues.
Oui, complètement. Ouais.
Du coup, on va écouter une chanson de toi, Def, il me semble. Ben. D-E-F. Un titre que j'ai vu, je ne sais pas, c'est moi qui mal vu le titre. DKF, c'est ça, tu me dis, Léo ?
PKM,
oui, c'est ça.
C'est pas du tout les mêmes lettres.
Def, PKM.
Vas-y, moi, c'est le vendredi, j'ai ma tête ailleurs, je fais n'importe quoi, oui, mais t'as compris.
J'ai compris,
alors,
oui.
Du coup, tu me parles de cette chanson ? Moi, je dis Def. Heureusement que Léo est là, réalisateur, merci Léo, t'es le meilleur.
Alors, juste pour raconter un peu l'histoire du titre,
oui.
Choisi, parce que, alors, c'est Pas de chèque moins, et il y a eu un petit débat sur comment j'écris Pas de chèque moins. Parce que check, c'est un mot anglais, puis après nous on se le réapproprie, etc. Et ensuite il a été créolisé. Et en fait, il y a un orthographe en créole qui a été réfléchi par des personnes qui ont.
T-J-E-K, non ?
Pardon ?
C'est T-J-E-K ? Non. En créole, je sais plus.
Non, alors le tch en créole c'est K-Y. Et c'est pour ça que c'est P-K-M.
Ah, K-M.
Donc pas. Qui est check moins,
okay.
Mais bon, on le prononce, pardon.
Voici pourquoi je suis allé dire Def, hein, je me suis planté.
Ça n'a rien à voir.
Non, je déconne, ouais, ça n'a rien à voir.
Donc, du coup, c'est les premières lettres de pas check moins.
Voilà.
Donc, Ibrahim Duval.
Oui, on veut tous aller comme ça ce soir.
Merci.
Voilà, tout le monde sait maintenant.
Voilà, tout le monde sait, ça y est. Merci. Hein.
On sait que c'est toi. Voilà.
Oui, ouais, c'est moi.
C'est.
PKM.
Voilà.
Pas check moins.
Pas check.
Et ça veut
pas
dire
check moins.
Ouais, ça veut dire moins. Moins.
Ne me touche pas.
Non, ça veut dire me fréquente pas en fait.
Ah ouais,
reste
d'accord.
Là-bas, tu vois.
Reste loin.
Eh, je commence à apprendre des choses. Hein. Eh, j'étais pas loin.
C'était
ne
pas
me
loin.
Fréquente
c'était
pas. Allez, on écoute cette chanson avec la bénédiction de notre réalisateur de ce soir, c'est Léo. À tout à l'heure.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Ouais,
Fake friends.
démarrer votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
On est de retour dans cette émission et on l'écoutait à l'instant justement, pas check moi.
Oui,
exact.
Ah, tu vois, ça vient, PKM de, d'Alison Rachel qui est avec nous du coup depuis le début de cette émission. C'est très intéressant de parler avec toi, de connaître ton parcours. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on sent du maîtrisé. Je sais ce que je fais, je connais ce que je fais, je sais où je vais. Et ça, c'est très, très bien. Et nous, on apprécie la qualité de la musique qu'on écoute jusque-là. Voilà, on est bien, quoi.
Merci.
T'es là où il faut.
J'en suis ravi.
Aristote, ça va?
Ça va.
T'es avec nous depuis le début et t'as écouté toutes ces chansons, ces propositions musicales d'Alison. Du coup, qu'est-ce que t'en penses?
Franchement, magnifique. C'est une musique qui me touche directement parce que ça bouge.
Ton prochain combat, tu mets ça avant de monter?
Ah, moi, je pourrais, hein, y a pas de souci. Hein.
Comment on te présente? Dis-nous, si je dois te présenter, qu'est-ce que je dois dire?
Aristote, qui tu suis ça? Déterminé, guerrier, battant.
Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà un gars, quand tu fais quelques recherches sur lui, sur le réseau, on tape son nom, mais t'as plein d'infos.
Mais tu vois, c'est tout champion de kickboxing.
Hein. Champion de kickboxing.
C'est le premier tout court.
T'as plein d'infos, plein d'articles de presse ici. 2003, combien d'années? Mais à 25 ans, c'était un champion de kickboxing. Ouais. Quoi. Ah, moi, je suis à côté d'un champion de kickboxing.
Un champion national, donc
Steve, Aristote. Fais attention, pousse un peu.
Champion national.
J'ai pas envie que tu prennes un coup bizarre. Fais attention, te colle pas trop.
Non, non, ouais. On a un pote en commun depuis le début qui nous rapproche, Bruce, et donc c'est bon.
Pourquoi tu décides, justement, tu nous as dit tout à l'heure que c'est parce que tu aimais te bagarrer quand tu étais enfant que tu as décidé de faire ça, ou bien?
Non, en fait, c'est voilà, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les films de Jackie Chan,
oui,
Bruce Lee, etc. Et aussi Dragon Ball Z, mais bon, ça, c'est plus un dessin animé, Son Goku. Et voilà, donc tout ça, il fallait me...
À tout moment, on le voit
me transformer, exactement.
Tu te voyais comme ces personnages-là, et du coup, c'est comme ça que tu t'es dit, tiens, je vais faire ça.
Exactement.
Alors, mais t'étais enfant.
J'étais petit. Ouais.
Là, on n'est pas encore dans le sérieux. On est juste dans
une bébé
d'enfant,
voilà,
l'imaginaire de l'enfant et tout. Après, ça devient sérieux et tu commences à faire des compètes et tout. Comment t'en arrives là? C'est surtout ça.
Ben, en fait, j'ai eu un déclic. Un jour, je regardais la télé. C'était Eurosport. Et je vois, il y a un gars. J'aimais la boxe, tout ça. J'en faisais, mais juste en loisir. Et je vois, il y a un boxeur, du coup, qui a 21 ans. Et qui rentre sur le ring, tout ça, il passe à la télé. Et moi, ça m'a fait un boom, un électrochoc. Donc, je me suis dit, comment ça, lui, il a mon âge, et il passe à la télé sur Eurosport.
Il faut un déclic.
Voilà.
C'est là que le déclic est.
Excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer, Aristote. Vas-y, je te laisse terminer.
Du coup, je me suis dit, non, moi aussi, je veux passer à la télé. Et 3 ans après, donc, je suis passé à la télé sur Eurosport.
En 3 ans, ouais. T'as réalisé
bravo.
Ça.
Ouais. Bravo.
Bravo.
Bravo, bravo, reste à toi. Respect, monsieur. Alors moi, ma question, c'est est-ce que la boxe, le kickboxing, hein, c'est ça?
Oui.
Aujourd'hui, te fait vivre ou est-ce que c'est ton envie? Est-ce que tu veux vivre de ton sport, quoi? Comment ça se passe?
Très bonne question. En fait, comme beaucoup de sports, pas que la boxe, j'en vis pas, c'est plus un loisir, une passion.
D'accord, voilà. D'accord. Et quel est ton travail alors dans la vie de tous les jours?
J'en ai plusieurs. Donc je suis animateur, éducateur sportif.
Ok, ok, on est entre animateurs là, on se connaît, on se reconnaît.
Arbitre de foot aussi.
Aussi voilà. Eh ben bravo. Bravo, bravo.
Ouais, j'ai aussi vu ça, hein, arbitre et tout.
Et moi, j'ai une autre question, excuse-moi, Duval et Cynthia, je parle beaucoup ce soir peut-être, mais une question qui me vient là. Aujourd'hui, on voit à la télé le MMA. Ça éclate. Il y a de l'argent à prendre, les gens y vont, c'est dur, hein, les courageux. Est-ce que toi, ça t'a trotté dans la tête une fois de te dire est-ce que voilà, je passerai pas au MMA?
Très bonne question. En fait, depuis même 2016, on parlait déjà du MMA. Mais en fait, moi, comme j'ai grandi dans le kickboxing, en fait, j'avais un idole qui s'appelait Rémi Bonjasky, un boxeur hollandais qui vient du Suriname. Et je m'inspirais beaucoup de lui, les coups de pied sautés, les genoux sautés. Et jusqu'à ce que je faisais, même là, j'ai la même coupe que lui, on va dire. Donc en fait, je disais non, moi, je reste dans le kickboxing. Mais depuis 2016, déjà, on m'en parle.
Ok. Et les différences entre le kickboxing et le MMA? T'as le droit au coup de genou, toi, au niveau du kickboxing? Comment ça se passe?
Moi, au kickboxing, plus précisément, le K1, je fais. Parce que le kickboxing, c'est un sport. K1, c'est un dérivé du kickboxing.
D'accord.
Et justement, au kickboxing, on n'a pas le droit au coup de genou, mais au K1, on a le droit au coup de genou. C'est ça la différence, on va dire.
Ok.
Quel est le combat qui t'a marqué?
Moi.
Oui, à ce jour, le combat qui t'a vraiment marqué, le tien.
Le mien, donc du coup, c'était 2013-2014, je dirais plus. En fait, j'ai battu un Roumain, un boxeur roumain très connu et qui même encore actuellement, il boxe toujours.
Il est en activité, oui.
En activité, bah, tout comme moi. Et quand je l'ai battu, franchement, j'ai choqué tout le monde. Et je sortais nulle part, je suis arrivé, je l'ai battu.
Pourquoi ? Parce qu'il était déjà super connu, super il avait connu, réalisé pas mal de choses, exactement. Et toi, personne ne misait sur toi.
Il mettait tout le monde KO. Et moi, en fait, justement, à l'époque, j'étais là, non, moi, tu vas pas mettre KO. Et justement,
donc,
en fait,
c'est beaucoup de mental, en fait,
exactement,
au final.
Ouais.
Hein. Tu fais une préparation pour ça ou pas ?
Ben, il faut faire une préparation. Et je me rappelle à cette époque-là, pour ce combat-là, j'étais parti et pour la première fois en Thaïlande.
Ça ressemble à quoi une préparation avant ?
C'est entraînement matin et soir, deux fois par jour, du lundi au samedi.
Mais est-ce que tu as, quand je te parle de préparation, c'est, préparation mentale, est-ce que tu médites, est-ce que tu suis un coaching, on dit ça,
psychologique,
ouais, avant. Au-delà du physique, quoi, ouais, mental.
Au-delà du physique.
Préparation mentale, c'est exactement ça. Ben, en fait, moi, je le fais, on va dire, moi-même, je suis beaucoup dans le, je me projette, en fait, déjà dans le futur en disant, je vais gagner, je m'entraîne pour gagner.
Manifestation.
Voilà, et du coup... C'est comme ça que ça se passe.
Et Aristote, moi, il y a toujours une question que je me pose et je me dis, voilà, les boxeurs et tout, ils rentrent dans une arène comme ça. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu peux te dire quand tu es sur le chemin justement qui te mène au ring là et que tu sens cette pression arriver ? Enfin, est-ce que des fois tu te dis, mais pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça et tout ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ?
Désolé, j'ai ricané entre-temps parce que j'ai vu une vidéo de lui qui rentrait sur le ring et il dansait. Donc,
ok.
Je me suis dit,
mais la danse, est-ce que ça masque quelque chose peut-être, j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres ?
En fait, moi, je suis un peu, je pars en freestyle, en live, mais toujours tout est contrôlé en fait.
Et est-ce que tu recherches justement ce moment-là, qui est, j'imagine très très intense quoi, avant de monter sur le ring ?
Non, ça, je le prépare même déjà avant.
D'accord.
Je me dis déjà genre le. Ce jour-là, le jour où je vais boxer, je veux rentrer comme ça. En fait, je le réalise déjà.
Ça marche. Et du coup, bah, excusez-moi, mais Rachel, toi, c'est pareil. Avant de monter sur une scène, comment
c'est
ça se passe en termes de track et tout
Non, c'est beaucoup de track. Hein. Du coup, des exercices de respiration pour me détendre, pour me recentrer et tout. C'est vrai que en fonction de la scène, hein, des fois, tu peux avoir des milliers de personnes si c'est un gros festival. Des fois, ça va être plus intimiste. Ce que je retiens, par contre, c'est que quand j'étais petite, ce qui m'a plus stressé dans ma vie, c'était de chanter devant un petit comité et surtout
visible.
Devant ma famille. Oui. Ça, je crois que c'est les trucs qui m'ont le plus stressé dans ma vie.
C'est beaucoup plus stressant.
Ouais,
parce qu'ils te connaissent.
Ouais.
Tu connais chacun d'eux et leur réaction. Je pense que c'est ça.
C'est ça, certainement.
Beaucoup de chanteurs nous disent que c'est très, très difficile de chanter dans un bar, par exemple, où le public est à ta hauteur, éclairé d'une façon où tu les vois. Ouais.
Tu vois
dans une salle où c'est noir, on voit rien. Ouais. C'est totalement
mais
différent.
Mais c'est vraiment les minutes, quelques minutes avant de monter sur scène, parce qu'une fois que tu y es.
Ça y est, on est dans le bain. Exactement. Ouais. Et pour toi, effectivement, c'est pareil, Aristote. Quand le gong retentit, tu y vas, ça y est, c'est parti.
Ouais, en fait, c'est au bout de 2-3 coups, et puis ça y est, on est dedans, c'est parti.
2-3 coups que tu reçois ou que tu donnes ?
Non, on va dire que je donne.
Est-ce que tu as eu un combat qui a été très très dur pour toi ?
Ben, le même que j'ai dit contre le...
Celui-là, tu l'as remporté. C'est un combat qui a été dur que tu as perdu.
Dur que j'ai perdu, un Hollandais, c'était avant le Roumain. Il s'appelait Horace Martin, un très, très, très bon boxeur. Mais il m'a eu quand même, parce qu'en fait, il m'a fait une chose que je ne connaissais pas. Il me perturbait, en fait, exprès, volontairement, un peu à la Cédric Doumbé. Il rentrait dans ma tête, il me provoquait. Et en fait, ça m'a énervé. Et c'était la première fois que je m'énervais avant un combat. Et du coup, après, sur le ring, je voulais le...
Tu voulais trop en découdre.
Je voulais en découdre et en fait, il m'a eu parce que il m'a déstabilisé indirectement.
C'était une stratégie, je pense.
Oui, c'était une stratégie.
Ouais,
c'est une tactique aussi, bien sûr.
Je sais que tous les boxeurs et tous les athlètes, ils ont leurs points forts. Toi, tes points forts dans le combat, c'est quoi en fait ?
Moi, c'est surtout les jambes, déplacement et les jambes.
On vient de donner ton secret. Je dis exprès parce que j'ai un poulain que je mette avec toi. C'est pour ça.
Ah, d'accord.
Oui, c'est les jambes.
Il est confiant, il n'a pas peur.
Non,
il a fait une tête. Vous ne voyez pas, mais nous, on voit.
Donc, c'est les jambes, c'est ça ?
Ouais, les jambes, parce que avant de commencer le kickboxing, j'ai commencé d'abord par le taekwondo.
Ok.
Le taekwondo, c'est un art martial qui vient de Corée du Nord. Et du coup, ça envoie, c'est un peu comme le karaté, ça envoie beaucoup les jambes, les jambes, les jambes. Et voilà, d'où mon point fort est parti.
Moi, j'aime beaucoup regarder beaucoup de films et des séries et des biopics, surtout sur les grands boxeurs et tous les grands athlètes. Et souvent, quand on regarde les acteurs qui jouent les rôles avant la scène, avant de monter sur le ring, on nous montre le gars. Peut-être souvent, il est un peu timoré, souvent il a peur, souvent il se tape dessus. Toi, t'es dans quel état d'esprit avant de venir sur le ring? Tu te dis quoi là à l'instant?
Bah, moi, franchement, je suis très détendu. Mais ça, ça vient vraiment de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, en fait, je suis d'origine de l'Angola et du Congo. Du coup, j'ai appris à regarder les papas, les mamans danser, etc. Donc du coup, j'aimais beaucoup le show, danser. Et après, du coup, c'est ancré en moi, c'est naturel. Ça veut dire, dès que je vais préparer un combat, je suis détendu, je suis prêt à faire le show, à danser devant des milliers de personnes. C'est normal pour moi.
Pour toi, c'est un show, ouais, quand tu montes sur le ring.
C'est exactement, c'est
ring,
un show.
En fait.
C'est super cette approche. Ouais.
Mais très bien. Du coup, tu m'as dit que tu étais un très très bon danseur. Tu as un surnom, toi, dans le milieu de la boxe?
Dans le milieu de la boxe, Harry Beaumaillé.
Harry Beaumaillé, oui. Comme Beaumaillé Musique de Youssoupha, du coup, j'avais vu ça. Mais tu n'as pas un petit surnom de bon danseur, hein, un surnom un peu congolais de gars qui sait danser et tout? Tu n'as pas ça, par hasard?
Non, on appelle.
Je fais exprès. Hein.
Je gratte.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Par contre, moi, je sais que tu aimes beaucoup Koffi Olomidé.
Exactement.
Et quand tu gagnes ton combat, tu fais une petite démonstration de Koffi Olomidé sur
même
la chanson.
Avant.
Ah ouais?
Avant et après.
Donc
deux.
Tu sais danser?
Je sais très bien
le Koffi et la chanson Loa de Koffi Olomidé. Pourquoi tu l'aimes tant? Qu'est-ce qu'elle t'inspire?
Loa, c'est sorti en 1998. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une chanson
Mais il y a une belle histoire derrière cette chanson que je ne vais pas raconter ce soir, mais il y a une vraie histoire derrière. Ah ouais. Comme toutes les grandes chansons de Koffi, il y a toujours des histoires comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des titres comme ça. Loa, c'est pas pour rien, il y a une grosse histoire, je te dirais. Alors, du coup, les auditeurs, vous n'allez pas voir tout de suite. Nous, on va voir, on va se faire plaisir de regarder pour le bonheur de Rachel Allison, de son équipe, de ma team, de Léo. On va regarder notre artiste, notre kickboxer danser là sur du Koffi Olomidé, le titre Loa. Et ça sera en direct. Mais vous avez que le son, hein, chers auditeurs. Allez, à tout à l'heure.
La partie Dombolo.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Mon Paris FM.
L'homme prudent voit le mal de loin.
Quel moment. Bon, écoutez, c'était la star. Merci beaucoup.
Merci.
C'était un très bon moment, mais t'es un bon danseur. Ah, t'es un grand danseur. C'était incroyable, ce petit moment-là.
Incroyable.
Et Rachel, t'as vu, hein ?
J'ai vu, oui.
Toi qui t'es chorégraphe aussi, Rachel, ou pas ?
J'essaye en tout cas de rajouter le show justement sur scène, c'est important, tu vois, parfois de faire des chorégraphies avec des danseurs.
J'aime bien l'humilité, j'essaye.
Oui,
ben, bah, moi je l'ai vu.
Bah, j'essaye, c'est pourquoi j'aime bien l'humilité, j'essaye.
Je t'ai vu à la call l'an dernier avec de jolies plumes.
On sait que t'essaies pas,
un beau costume,
tu fais.
Et franchement, le jeu de scène était vraiment magnifique. Enfin, il y avait. Il y avait une histoire en fait. Et c'est ça qu'on aime. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Qui est une histoire, il y avait un fil conducteur et j'ai vraiment adoré.
Merci beaucoup.
Rachel,
et puis le public n'était pas facile et elle a réussi à les capter. Vraiment.
Non, mais tu gères. Hein. Moi, j'ai vu. Hein. J'ai vu quelques vidéos. Mais c'est bien.
Ouais, c'est vraiment
ce que tu fais, c'est déjà très bien. Donc, t'essaies pas. T'es une artiste complète. Tu chantes bien.
Non, mais parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en fait. On n'a jamais fini de se perfectionner.
J'aime beaucoup. Cynthia, on va aller tout de suite avec ce qui est prévu dans ton conducteur. Donc l'agenda de tout de suite, ça va être avec Cynthia, chers auditeurs, et on revient après pour continuer nos échanges avec les deux invités de cette émission Mon Afro Paris dans Mon Paris FM, sur Mon Paris FM. À tout à l'heure.
Retrouvez les rendez-vous de la communauté afro dans l'agenda de Cynthia. L'agenda de Cynthia, c'est tout de suite.
Ce samedi 7 juin, le marché du livre africain débarque à Pantin pour sa troisième édition, au 42 rue des Sept Arpents. La Natural Air Academy, la NHA, le rendez-vous spécial cheveux afro, réouvre ses portes le 21 et 22 juin et cette fois-ci à Paris Expo, porte de Versailles. Cléopâtre Drive nous présente Unir pour épanouir le dimanche 15 juin, une conférence qui lit spiritualité et psychologie et ça sera à l'appart de la Villette, au 9 avenue du Nouveau Conservatoire dans le 19e. Et pour finir, ne ratez pas l'élection du roi et de la reine du carnaval tropical de Paris ce samedi et dimanche 7 et 8 juin. Et où les rois et reines, mini-reines, reines-mères, vont céder leur précieuse place à la nouvelle famille royale et ça se déroulera aux deux avenues Capitaine Fonck, au Blanc-Ménil. À Le Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil.
Au Blanc-Ménil.
Au Blanc-Ménil.
Voilà.
Au Blanc-Ménil.
C'est tout pour moi.
Bon, de toute façon, on a compris. Hein. Merci beaucoup pour cet agenda assez chargé, assez sympa. Et moi, je continue toujours de vous rappeler que du 21 au 22 à Châteaubriant. Le Festival des Arts et Cultures d'ici, d'ailleurs, avec c'est le Facia, l'acte 3, du coup, où je serai pour le compte de Mon Paris FM et Mon Afro Paris. On y sera, bien évidemment. Et on revient avec nos invités dans cette émission. Voilà, j'ai envie de te demander, mon très cher Aristote, c'est quoi ton actualité en ce moment ?
Mon actualité ?
Oui. Est-ce que tu as des combats prévus ?
Ah, c'est ce qui nous intéresse, nous, là-bas.
Du coup, là, je suis en mode une petite pause.
Oui.
Et je vais reprendre dès octobre. Mmh. J'aurai un combat pour une ceinture mondiale dans une autre fédé en Allemagne.
Et Aristote, quand tu dis la petite pause, c'est-à-dire que tu t'imposes quand même des choses physiquement quand même. Tu manges sainement, tu continues de faire du sport. Enfin, t'es quand même dans le
toujours. Ça, c'est la base.
Il n'y a jamais de pause à ce niveau-là.
En gros, ouais.
D'accord.
Je voulais la question de Steve. Hein. C'est un rituel chez lui. C'est quoi le rituel que tu fais avant de monter sur scène avant de monter sur
le ring.
Le ring, c'est quoi ton rituel, toi?
Le rituel, c'est échauffement.
Avec du dombolo, loi de confidentialité.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Je m'échauffe.
Est-ce qu'il y a une tenue que tu mets toujours? Est-ce qu'il y a une tenue
Je mets le drapeau de l'Angola autour de la ceinture.
Voilà.
Et sur le côté, une cape en fait avec le drapeau de la France, parce que pour moi c'est important de représenter la France et l'Angola.
C'est super, les deux pays, bien sûr.
Au départ, tu disais que t'es arrivé à ce sport justement parce que t'es tombé amoureux quand t'as vu Bruce Lee et d'autres combattants. Tu t'es dit tu vas le faire, mais avec le temps, après, on y trouve d'autres raisons de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a une raison plutôt pédagogique ou philosophique qui te fait poursuivre ce sport là
Je dirais, pour moi c'est important parce que à travers ce que je fais quand même, j'influence les gens à se mettre dans le sport.
Okay.
Et comme je dis toujours, le sport c'est la santé. Donc c'est important pour moi voilà, de ce que je fais et de faire aimer les gens par rapport à ce que je fais.
Et tous ceux qui voient que l'aspect combat sur le ring, qui te regardent que l'aspect combat, l'aspect violence, etc., qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là, toi qui es dedans et qui connais les biens, tout ce que ça t'apporte?
Moi, ça, personnellement, ça apporte maîtrise de soi, la confiance, d'avoir confiance en soi,
Oui.
D'être bien canalisé.
Et ça reste du sport.
Exactement, toujours les valeurs du sport.
Et je vois souvent des combattants à qui on pose la question, prendre des coups, ça te fait pas peur? Et il y a un qui a répondu à Dieu, ça me fait plaisir de prendre du coup. Est-ce que c'est pareil pour toi?
Non, moi pas du tout. Moi je suis plus dans le... Je me déplace et...
Tu veux pas prendre de coups, tu veux donner.
Exact. Comme Ali Boumaïe disait, c'est pour ça que j'ai repris Ari Boumaïe. Ouais, Aristote, oui. Ari pour couper, et Boumaïe qui veut dire tue-le. Donc et moi c'est plus... toucher sans se faire toucher, je suis plus dans ce style.
Vole comme un papillon et puis comme une abeille.
Non, il y avait cette... Oui, c'est ça.
Et le fameux Ali Boumaïe, du combat de Cassius Clay. Ouais.
Et toi, du coup, Rachel, la même question, t'as un rituel, toi?
Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est des exercices de respiration.
On lui a déjà demandé.
Oui, voilà. Parfois, pas tout le temps, parce qu'après on tombe dans des excès, mais un tout petit fond de rhum vieux, tu sais.
Pour réchauffer la voix.
Bah oui,
ça, voilà, ne l'a pas dit, ça.
Évidemment,
c'est pour
évidemment.
La voix. Mais c'est important de le dire, pas tout le temps.
Mais excuse-moi Rachel, mais il paraît que c'est pas le rhum qu'il faut boire dans ces cas-là pour chauffer, en tous les cas, les cordes vocales.
Non,
et tout,
clairement
c'est plus
pas.
Le whisky, ou le bourbon. Enfin, je veux pas faire de publicité, mais en tous les cas.
En vrai, il faut pas boire d'alcool.
Oui.
Oui.
Mais quand même, ça
vocales.
Chauffe les cordes vocales.
Part pas là-bas, c'est pas là-bas qu'elle
là,
partait.
C'est pour,
après, ça dépend où on est. Si tu es à Paris qui fait moins 2 degrés, il faut se réchauffer le corps.
Donc, toi, comme tu disais, c'est plus pour se détendre. Ouais.
Rachel, oui. Je pense que c'est peut-être pas la première fois que tu as un roi du kickboxing sous tes yeux.
Ah, c'est
la première fois. Si tu avais une question à lui poser, ce serait quoi?
Moi, j'en aurais plusieurs, du coup. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport?
Là, ça fait 13 ans.
13 ans.
13 ans que je suis pro et jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que justement, quand on fait une carrière, il y a une deadline un peu, tu vois, après un certain âge, on ne peut plus ou on doit arrêter ou c'est jusqu'à ce que le corps tienne
En général, c'est à peu près...
Réponds bien, hein, parce qu'elle pense à sa retraite musicale et elle va se mettre dedans après. Ouais.
C'est à peu près... Moi, je la prends en coaching, il n'y a pas de souci. Hein. C'est à peu près 42 ans, on va dire, la moyenne, mais... Si on peut continuer, on continue. En fait, tant que la santé le permet, on continue.
D'accord. Et est-ce qu'on parle vraiment de chorégraphie, parfois, non? Quand on enchaîne certaines techniques, certains mouvements.
On va dire d'enchaînement,
ouais.
De combinaison, on apprend telle combinaison. Après,
plutôt en thème de combinaison et non de chorégraphie.
Je dis ça parce que, alors pour un clip, j'ai dû, tu vois, je voulais jouer mon propre rôle, je voulais pas de doublure et tout, et du coup j'ai pris des cours, je saurais pas dire quelle discipline sportive exactement, je sais que c'était de la boxe mélangée à un tas de choses, et du coup j'ai pris des cours, et le coach m'a appris un enchaînement, donc il appelait ça une chorégraphie, un enchaînement de mouvements, pour pas que je me trompe sur le tournage et c'est vrai qu'après ce tournage là j'ai continué en fait les entraînements. Je suis jamais montée sur un ring ou quoi, mais l'entraînement pour le sport de combat j'en ai fait pendant plusieurs années.
Après, comme on dit, la boxe c'est de la danse.
Ouais.
Pour moi c'est ça rime, c'est pareil.
Ouais.
Dis-moi, revenons sur l'album Fairy.
Oui.
Quel morceau est le plus personnel sur cet album là?
Et le plus personnel
Déjà, l'ensemble, l'album, il est lui-même un peu personnel, je crois.
Oui, forcément. Est-ce que je dois parler de titre personnel Attends. Non, parce que c'était il y a 2 ans. Donc, et entre-temps, j'ai fait tellement d'autres morceaux. Il faut que je me concentre. Mais tu sais, parfois, les morceaux les plus personnels ne sont pas ceux qui ont le plus de succès.
Oui.
Tu vois. Et il y en a un qui s'appelle La Nuit Tombée, qui a été fait par les 8 Beats, qui sort un peu de ma zone de confort, de rythme caribéen. On est plus sur un rythme un peu R&B pop, j'ai envie de dire. Et vraiment, quand je l'ai écrit, j'ai repensé à certaines histoires en particulier qui m'ont aidé à finir ce texte-là assez rapidement. Donc c'est La Nuit Tombée. C'est pas le titre le plus populaire de l'album, mais...
Parfois, vous, les artistes...
les coups de cœur que vous avez ne sont pas forcément des chansons qui sont populaires, parce qu'ils sont personnels, vous savez ce que vous racontez dedans, ils vous touchent personnellement, et c'est ça qui est le plus important. Donc toi, en fait, quand tu te retrouves avec ta playlist, tu vas de temps en temps écouter ces chansons-là parce qu'elles te touchent directement, mais pas forcément le cas de l'auditeur lambda.
Après, s'il faut parler d'un titre qui est important et qui, pour moi, a été vraiment d'une utilité publique, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est le titre « Ma petite » avec Meryl qui parle d'inceste. Et ce titre-là a été un déclic pour beaucoup d'enfants. J'ai eu énormément de témoignages et quand j'ai fait ce titre-là et quand j'ai vu l'ampleur que ça avait pris, je me suis dit, au moins demain j'arrête la musique, je pourrais dire que j'ai fait ça.
Pourquoi t'écris une chanson comme ça ?
Parce que c'est important, parce que c'est trop tabou, parce que les victimes deviennent les coupables. Et c'était un choix d'écriture, déjà quand on a discuté avec Meryl, c'était déjà de se dire, en tant que femme, on a subi à différents degrés des comportements où on était mal à l'aise face à un homme de notre entourage, un oncle, un cousin, un ami de la famille, etc. Et on a forcément été confronté à ça. Quand on se raconte différentes histoires entre copines, entre machin, on se rend compte qu'on a tous vécu ce truc. Ça peut ne pas aller jusqu'au pire. Moi, je sais qu'il y a des situations en tant qu'enfant qui m'ont fait faire des cauchemars parce que je ne comprenais pas certains comportements. Et on s'est dit, je pense qu'il est important d'en parler. Parce que quand t'es enfant, tu fais confiance à l'adulte. Et quand tu te sens mal face à un adulte, je ne sais pas pourquoi, mais tu culpabilises toi. Mm-hmm. Tu vois.
Et justement, c'est ce que je me disais, parce que ce genre de sujet, les artistes, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui écrivent sur ce genre de sujet. Il y a tellement de sujets déjà qui sont vendables et qui sont d'actualité. On se dit, s'il écrit un texte comme ça, c'est peut-être qu'elle s'inspire d'une expérience personnelle ou d'un témoignage de quelqu'un qui est venu lui parler. Et c'est pour ça que je te posais cette question de savoir pourquoi tu décides d'écrire sur ça.
Ouais.
Et au final, tu l'as fait et tu es satisfaite du résultat.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et je peux te dire que la plupart du temps, quand je le chante, c'est malaisant. Parce que les gens ne savent pas comment se comporter, tu vois. C'est un peu un zouk, tu sais pas si tu dois chanter, si tu dois danser, si tu dois écouter. Il y a des gens qui ont été un peu en colère contre ce titre-là parce que ça remet des choses en eux. Il y en a qui ont été soulagés. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup d'émotions.
C'est très bien de créer des émotions. La musique, c'est fait.
Mais c'est fait pour ça. Voilà, c'est pas fait que pour l'amusement.
Oui.
Et au final, j'appréhende un peu à chaque fois que je vais le chanter, mais je me dis je vais quand même le faire parce que c'est important. Et ça rate jamais. À la fin d'un show, quand j'ai chanté ce titre-là, j'ai au moins une personne qui me dit merci. Je suis passée par là. Malheureusement.
Est-ce qu'il y a des combats dans la musique qui te tiennent à cœur, que tu mènes à travers ta musique ?
Le premier combat, c'est le fait de pouvoir faire de la musique caribéenne en tant que caribéenne. Tu vois ? Parce que il y a énormément de talent chez nous et on a l'impression, en tout cas pour ce qui concerne les Antilles françaises, c'est un peu chacun son tour sur la scène nationale. Et en fait, on n'a pas assez de visibilité. Comme je disais tout à l'heure, on veut effectivement absolument séduire l'Hexagone alors que le monde est grand. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être reconnu en tant qu'artiste caribéen. Les sonorités caribéennes influencent le monde. Et il y a très peu d'artistes caribéens français sur la scène musicale. Donc c'est important aujourd'hui de mener ce combat.
Aujourd'hui, tu fais partie, je dirais, des icônes de la Caraïbe. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire à la Rachel qui débutait la chanson il y a plusieurs années, il y a 12 ans?
que ça va être difficile, mais qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut se battre. C'est un peu ce que j'ai fait. Hein. De toute façon, je ne sais pas si c'est du courage ou c'est juste si je subis ma passion en vrai, hein, parce que c'est compliqué. Hein. C'est vraiment,
Mais toi, tu as envie de ta passion?
Alors, j'en vivais quand j'étais en Guadeloupe. Et je suis venue sur Paris justement pour parce que je suis ambitieuse, j'ai besoin de développer, j'ai besoin que ma musique soit écoutée par un plus large public et ça passe par des sacrifices et ça a été de partir avec ma fille, de laisser cet argent facile entre guillemets pour me développer, me faire connaître ici et du coup oui, donc j'ai dû prendre un boulot sur le côté parce que quand je viens à Paris il faut 3 mois de
loyer,
salaire
départ,
pour pouvoir prendre un appartement. Enfin bref, c'est
deux
compliqué.
Garants et ainsi de suite. Bref,
exactement.
Très dur.
Ouais, c'est dur. Ouais.
T'es pas là, c'est une chanson d'amour.
Ouais, ouais. Mais c'est pas positif.
C'est très personnel.
Oui, ça l'est. Et je pense que c'est quelque chose qui doit parler à beaucoup de personnes, hein, d'hommes ou de femmes, parce que parfois tu restes dans une relation par habitude. Parfois tu tu acceptes certaines choses, tu n'es pas heureux, mais tu ne te l'admets pas. Et puis, il y a souvent ces promesses d'efforts et ces éternelles conversations qui vont durer jusqu'à très tard dans la nuit. Et en fait, à un moment donné, il faut juste admettre que, voilà, on laisse.
On connaît la suite, mais on est dedans quand même.
Ouais. Ouais, exact.
Allez, on écoute cette chanson qui est l'une de tes plus récentes d'ailleurs, hein, t'es pas là. Et ensuite, on revient pour le dernier tour de cette émission. À tout à l'heure.
Mon Afro Paris, votre émission afro sur Mon Paris FM.
Entre nous, rien ne va, on se conjuguera au passé. Tous mes rires, rire aux larmes, nos délires, rire aux drames. J'en peux plus, j'en ai vu passer. Bébé, on va se manquer, tout recommencer. Combien de fois on va le faire? Je sais qu'il me suffira, je n'oublierai pas. Au final, rien n'aura changé. J'ai le vase est brisé. Regarde la dernière pétale est tombée. Dernier homme. Quand je m'endors sur le canapé, tes mots font couler mes larmes et t'as l'air apaisé. T'as peut-être raison, mais moi je me suis pas trompé.
Votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Eh, ça déchire.
C'était bien.
Merci.
Eh, franchement, tu vois comment t'as dansé et tout en plus. Les auditeurs, est-ce qu'ils pourront voir ces petites...
T'es pas obligé de dire ça, Steve.
Ah non, mais faut qu'ils voient ça. Cynthia, on l'a pas filmé là quand il dansait comme ça sur...
C'est vrai que j'ai dansé, Cynthia.
Qu'est-ce que je dis?
C'est-à-dire que.
Et la chanson, elle est trop belle.
Je l'ai pas filmée.
Merci.
Elle
est magnifique, elle est incroyable.
Merci.
Bon, je pense que voilà une chanson qui vient de rentrer dans ma playlist.
Oui.
Moi j'écoute beaucoup de compas, zouk et tout, et ce genre de musique, ça passe forcément dedans. Et je vais me régaler. Merci beaucoup pour cette découverte de cette chanson-là. J'avais écouté les autres, mais celle-là, je ne l'avais pas encore écoutée. Je trouve qu'elle est magnifique, elle est très bien.
Merci
voilà.
beaucoup.
Donc c'est vraiment une histoire qui finit mal, c'est ça?
Bah, qui finit pas forcément mal, qui finit bien, mais séparément.
Ouais, chacun de son côté.
Chacun de son côté.
Ton actualité, c'est quoi, Rachel?
Alors, j'ai un concert au Cabaret Sauvage le 21 novembre. Je prépare en parallèle mon prochain projet. J'ai pas encore de titre pour le projet parce que c'est le plus difficile à trouver, je trouve.
Excuse-moi, Rachel, mais où se trouve le Cabaret Sauvage?
À Porte de la Villette.
C'est à côté du Zénith, c'est ça, non, il me semble?
C'est ça, c'est, hein, ça, c'est ça.
C'est à côté, ouais, à Porte de la Villette, donc voilà, il faut que nos auditeurs ils entendent pour qu'ils puissent se rendre à ton concert.
Oui, à Paris, exactement.
Ok,
voilà.
Okay. Donc, et Tani, c'est quand ?
Le 21 novembre.
21 novembre, ok. Ouais. Si tu veux, on te recevra avant pour en reparler.
Mais oui,
hein.
Mais je veux bien.
C'est déjà
je...
booké.
Merci.
Bah oui, ça sera.
Ah, c'est déjà booké. D'accord,
on va se recevoir à nouveau pour en reparler et faire la promotion de son concert où on sera, évidemment. Et...
Il ouais, y aura des nouveaux titres entre temps aussi, bah puis oui. Un projet à promouvoir. Donc
on ira zooker. Oui, et toi, du coup ? C'est tes réseaux sociaux, tu peux les donner pour qu'on puisse te retrouver et voir ton actualité.
Bah, si moi, c'est tout. Aristote, qui tu sais ça. Facebook, bon, c'était à l'époque, mais ça l'est toujours. Instagram et TikTok. D'ailleurs, TikTok, il y a une des vidéos où je danse Kofi Olomide Loa sur le ring pour ceux qui veulent voir en live.
Merci Aristote d'être passé. Rachel,
oui.
Tu m'as dit que tu écoutes aussi d'autres musiques. Il y a une musique qui t'inspire beaucoup, avec laquelle on va terminer en ce moment.
Oui, mais j'écoute beaucoup de musique. J'écoute aussi pas mal de rap parce que j'aime beaucoup la plume, l'écriture, les lyrics des rappeurs. Et il y en a une que j'ai beaucoup écoutée, qui m'a... Tu sais, des fois, t'as envie de lâcher et t'arrives pas. Alors du coup, t'as envie d'écouter quelque chose qui te rend triste et là, tu évacues. Et il y a un titre de Z et SDM que j'aime beaucoup, qui s'appelle Solitaire.
Solitaire. Me dis pas que t'es solitaire.
Ah...
Ok, elle vient de lâcher l'info.
Mystère.
Merci
après,
Cynthia.
Peut, pourquoi pas.
Merci Cynthia, merci Steve. Les amis, on se dit
merci
à la semaine prochaine.
Merci à vous.
Et puis on vous souhaite un très bon week-end, chers auditeurs. Vous étiez sur Mon Paris FM, dans Mon Afro Paris. On se sépare justement avec cette chanson Solitaire de Z et SDM. Allez, salut.
Salut.
On dérange, on assume qu'on dérange. Quand on coule, ça t'arrange. Quand on coule, ça t'arrange. Le problème, c'est qu'on est là et que sans nous, c'est le néant. C'est le néant.
Un solitaire dans l'âme, je me suis demandé plusieurs fois, mais comment je pourrais me séparer de vous. Plein d'ennemis sur le dos, du cash, une enveloppe, des shooters qui opèrent pour me séparer de. Et gros, si je perds la foi, je prends un gun pour me foutre en l'air. Je sais que mon public m'aime, mais j'ai toujours cette voix qui me dit qu'en gros, ben si tu pars, c'est pareil. J'ai mal à la vie, j'suis plongé dans le vide, du mal à aimer. La bouteille, je vide, j'en suis pas ravi, des phrases, j'fais rimer. Un solitaire dans l'âme, je me suis demandé plusieurs fois, mais comment je pourrais me séparer de vous. Plein d'ennemis sur le dos, du crash, une enveloppe, des shooters qui opèrent pour me séparer de. Et gros, si je perds la foi, je prends un gun pour me foutre en l'air. Je sais que mon public m'aime, mais j'ai toujours cette voix qui me dit qu'en gros, ben si tu pars, c'est pareil. J'ai mal à la vie, je suis plongé dans le vide, du mal à aimer. La bouteille, je vis, j'en suis pas ravi, les phrases, je fais rimer.
Même avec un cœur coupé au millimètre, j'essaie de faire le bon, de mettre bien les miens. C'est vrai qu'on coupe toujours dans les bâtiments. C'est vrai que ça coupe toujours, mais c'est plus pareil. Ah, c'est plus pareil, gros, c'est plus pareil. Moins de sentiments. Je veux pas tes cigarettes, mal intentionné. Je veux pas tes compliments. Et si j'avais pas senti que t'étais fou, je t'aurais pas laissé, non. Je remercie ma mère, les gars qui m'entourent de m'ouvrir les yeux. Chaque jour, je t'aurais pas laissé de peur de laisser mon cœur à la mer. Le petit verre d'Hennessy m'aide à ouvrir.